Bonjour Paola.
Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon, qui la protégeait de leur tenue frémissante à 2 octaves de là. Et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit, 200 pieds plus bas, la forme minuscule d'une promeneuse, la petite phrase venait d'apparaître. Lointaine, gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour.
Comme cette sonate, la petite phrase de Vinteuil, est quelque chose de très féminin. Elle est décrite comme une femme.
Ah, elle est décrite. Les métaphores qu'il emploie ou les comparaisons dont Proust se sert pour en parler sont très souvent féminines. De la cascade à la promeneuse, hein, d'ailleurs. Les métaphores sont très souvent féminines. Les images sont souvent féminines. Et puis, il faut bien dire que, comme cette petite phrase est l'hymne national de l'amour de Swann pour Odette, puis plus tard du narrateur pour Albertine, elle est inséparable de la féminité qu'elle évoque.
On peut peut-être rappeler, donc c'est une sonate qui est écrite par Vinteuil, mais peut-être rappelons qui est Vinteuil dans La Recherche du Temps Perdu.
Oui, vous avez raison Paola, il faut rappeler qui est Vinteuil dans La Recherche du Temps Perdu. Vinteuil est un prof de piano. C'est un génie, mais c'est un génie caché sous l'apparence austère d'un professeur pudibond de piano dont la fille a des airs de garçon manqué et est en un sens d'ailleurs un garçon manqué. Monsieur Vinteuil habite pas loin de la maison du narrateur, la maison de campagne du narrateur, donc pas loin de Combray, du côté de Méséglise, à Montjouvain. C'est l'endroit où il habite. Une maison située, dit le narrateur, au bord d'une grande mare et adossée à un talus buissonneux. Bon. Et c'est dans cette maison que le narrateur, qui est un voyeur, assiste un jour à une scène de sapphisme ahurissante, à ses yeux en tout cas, entre la fille de Vinteuil, dont le père est mort, et sa petite amie. Laquelle petite amie occupera une place tout à fait importante dans l'économie générale de la recherche. Il faut juste rappeler encore un tout petit peu les choses là-dessus. Vinteuil, la famille du narrateur le connaît parce qu'il avait été le professeur de piano des sœurs de sa grand-mère. Et après la mort de sa femme, et donc ayant hérité, il s'installe donc à Montjouvain. Et donc dans cette maison, le narrateur assiste après sa mort à cette scène de sapphisme, au cours de laquelle la fiancée de Mademoiselle Vinteuil, la petite amie, la bonne amie de Mademoiselle Vinteuil, crache sur le portrait de Vinteuil. Ce qui vaut au narrateur des tas de considérations sur la délicatesse des masochistes ou un sadisme délicat. Enfin, c'est un texte tout à fait important dans La Recherche du Temps Perdu. C'est un de ces moments comme la première rencontre du baron de Charlus et de Jupien. Un de ces moments où les gens sont regardés sans savoir qu'ils le sont. Ou alors, même s'ils l'espèrent, ils ne savent pas qu'ils le sont, puisque les deux filles espèrent que quelqu'un les mate, mais elles ne savent pas si c'est le cas. Et la fiancée de la fille de Vinteuil, qui crache sur le portrait du père, est également la musicologue qui sauvera l'œuvre de Vinteuil en préservant la petite phrase, en la recouvrant, en la harnachant et en fabriquant un septuor avec tous les restes déportés de Vinteuil plus tard. De sorte que on a, entre la scène de Montjouvain, c'est-à-dire la scène où la fille de Vinteuil couche avec sa fiancée et blasphème l'image de son père, et 1500 pages plus tard, l'épisode de la prisonnière où le narrateur, au cours d'une soirée organisée par le baron de Charlus chez Madame Verdurin pour faire mousser Morel, son jeune fiancé, le violoniste Morel, au cours de cette soirée-là, la petite phrase réapparaît sous la forme d'un septuor qui a été recomposé, reconstitué par la cracheuse, par celle qui a commencé par malmener le sujet empirique Vinteuil. Et au fond, tout est là. Vinteuil est un petit monsieur. C'est un petit monsieur assez conservateur qui ne veut pas fréquenter Swann, parce qu'il trouve que Swann a fait un mauvais mariage avec Odette. C'est toute l'histoire d'un amour de Swann. Il trouve qu'il a fait un mauvais mariage, que sa femme n'est pas de bonne fréquentation. Bon. C'est un type un peu snob, un peu timide, qui ne sait pas où se mettre, en définitive, et dont à qui Swann finit par penser un jour comme à un frère inconnu, comme à un frère caché, dont Swann se demande quelle somme de douleur il a bien pu accumuler pour être capable de composer un tel chef-d'œuvre, dont il faut rappeler, Paola, qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il est. Proust en parle sur des dizaines de pages dans La Recherche du Temps Perdu, et on ne sait pas qui est l'auteur véritable de cette petite phrase, de sorte que nous serons accompagnés pendant toute cette émission par des versions possibles de la petite phrase, tantôt Schubert, tantôt Chopin, tantôt Beethoven.
Tantôt Mozart.
Tantôt Mozart, effectivement.
Alors, pour revenir au texte qu'on vient d'entendre, où la petite phrase est comparée à une promeneuse, quelle est vraiment, c'est une promeneuse dans La Recherche du temps perdu, elle apparaît au détour d'une page. Et alors, la métaphore est intéressante parce qu'il parle donc d'une cascade, d'une vue au-dessus d'une cascade, d'une vue un peu en plongée. Et savez-vous, enfin, je ne sais pas si vous le savez, Raphaël, mais c'est marrant parce que Nietzsche, dans le cas Wagner, en parlant de la musique de Bizet, utilise exactement, enfin presque la même métaphore, parce qu'il dit qu'en entendant la musique de Bizet, c'est comme s'il voyait le monde, enfin comme s'il embrassait le monde du regard comme du haut d'une montagne.
On peut rappeler un instant, puisque vous parlez de Nietzsche, pourquoi Nietzsche aimait tant Bizet. On en avait parlé quand on avait parlé du Gai Savoir dans le Gai Savoir. Nietzsche adorait Bizet parce que Bizet est celui qui dépose une musique joyeuse sur une réalité douloureuse. Non pas pour masquer la réalité, mais pour au contraire permettre de la regarder, permettre de l'éprouver. Bizet est une école de douleur pour Nietzsche. Et Proust et Nietzsche, d'ailleurs, ont un rapport tout à fait comparable à la douleur. C'est-à-dire que la douleur a le même statut chez Proust et chez Nietzsche. Il dit ceci, « Les petites énigmes constituent un danger pour les plus heureux. » C'est une phrase de Nietzsche qui résume chacun des moments de la recherche où le narrateur se donne pour tâche de saisir l'énigme de bonheur que lui proposent des phénomènes aussi anodins que la saveur d'une madeleine, la forme d'un clocher, le bruit d'une cuillère, la raideur d'une serviette, etc., etc. Mais la meilleure façon de transformer les phénomènes en énigmes, c'est, à l'image du narrateur qui découvre en faisant le deuil de sa grand-mère l'étrange contradiction de la survivance et du néant et veut respecter, dit-il, l'originalité de sa souffrance, la meilleure façon de saisir l'énigme que compose chaque phénomène, c'est de faire comme Swann dans La Recherche du Temps Perdu, c'est-à-dire de se laisser bouleverser par une petite phrase et se demander soudain au fond de quelle géhenne le compositeur Vinteuil a puisé la force d'un dieu. Et c'est le dolorisme de Nietzsche, qui n'est pas rédempteur. On en a parlé déjà. C'est un dolorisme qui n'est pas rédempteur. Nietzsche dit « Il faut enfanter nos pensées du fond de nos douleurs, les pourvoir de tout ce qu'il y a en nous de sang, de cœur, de désir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. » Or, c'est exactement à ce travail-là que se livre Swann, ce travail involontaire, que se livre Swann à chaque fois qu'il tombe, comme par hasard, sur les cinq petites notes, les cinq notes immenses qui composent cette toute petite phrase où se concentre toute sa vie, de sa plus grande joie à sa plus grande détresse ou tristesse.
Vous voyez, le texte qu'on vient d'entendre commence par « mais ils se turent ». Et c'est marrant parce que dans La Recherche du Temps Perdu, à chaque fois que se pointe la petite phrase...
Vous avez raison d'employer ce « pointe », parce que c'est effectivement ça. C'est une fine pointe. C'est pas de l'argot quand vous dites ça.
Eh bien, à chaque fois, elle impose le silence. Elle impose toujours le silence, même dans le salon des Verdurin. Tout le monde se tait quand arrive la petite phrase.
Alors, il y a même un passage d'ailleurs, quand la petite phrase devenue septuor est proposée aux invités du baron de Charlus qui reçoit chez Madame Verdurin, où Charlus fait une tête épouvantable.
épouvantable à tous ceux, à tous les mondains qui, dont l'éventail ou bien le pied d'une chaise vient rompre l'harmonie surnaturelle que compose ce cérémonial qui est l'arrivée de la petite phrase. Il y a un passage comme ça dans quelque part dans l'Inachevé de Jean Kélévitch où il dit quand le conférencier a enfin terminé son interminable conférence sur Debussy et que Debussy lui-même prend à son tour possession de l'espace sonore, quand l'enchanteresse élève sa voix enchantée, nous sommes transportés dans un autre monde, un monde inespéré, ensorcelé, et sur lequel les mots n'ont plus de prise. Ce merveilleux je ne sais quoi n'a aucun rapport avec le radotage qu'on vient d'entendre. Ou peut-être faudrait-il mieux dire que nous nous sentons bien heureusement assiégés, enveloppés, habités, que l'homme se fait musique comme il se fait, mais plus rarement, poème. L'homme lui-même est devenu la musique elle-même. L'homme tout entier est devenu les parfums de la nuit.